Voilà, bonjour, rebonjour plutôt. On va, si vous voulez bien, tourner dans Néhémie. Néhémie, c'est un petit livre qui se trouve, si vous avez la Bible, traduction seconde, en tout cas entre Esdras et Job. Ça parle d'une époque où le peuple d'Israël était en captivité, le peuple de Juda aussi. Alors je vais beaucoup dire Israël, mais ça sera concernera Juda essentiellement, la tribu de Juda. Essentiellement ce matin. Mais donc, on va regarder ce livre de Néhémie. Ça vaut le coup de le lire chez vous aussi pour comprendre l'histoire. C'est assez facile à comprendre et c'est intéressant à lire, je trouve. J'aimerais voir que dans cette histoire, il y a trois catégories de personnes. Il y a Néhémie, il y a le peuple et il y a les ennemis. Et c'est assez classique, c'est un schéma tellement classique, n'est-ce pas, de ce que chacun de nous vivons dans la société, dans le monde, parce que nous avons choisi Dieu, eh bien il y a le peuple de Dieu et il y a les ennemis du peuple de Dieu. C'est toujours été comme ça. Il ne faut pas s'étonner si c'est le cas, parce que ça a toujours été comme ça et ça doit toujours être comme ça. C'est-à-dire, ça ne va pas changer. Donc, il y a ici des choses qui sont encourageantes et qui doivent nous édifier, qui doivent nous encourager à avancer. L'histoire commence avec Néhémie qui était donc un homme en captivité. Il était bien traité, semble-t-il, par le roi qu'il servait en captivité. Il était échanson du roi. Et il y avait quelque chose qui caractérisait Néhémie, c'est son cœur qui était triste. Parce que la muraille de Jérusalem était détruite, parce que la ville de Jérusalem avait été détruite. Et son cœur était brisé, son cœur était attristé. Et j'aimerais savoir ce matin si dans nos vies, dans nos cœurs, on a cette tristesse, peut-être. Parce que quelque chose de la muraille, quelque chose qui était construit pour Dieu, et on le sait, eh bien, a été détruit un jour. A été abîmé par l'ennemi, par les ravages que l'ennemi a pu faire. Vous savez que l'ennemi a non seulement détruit la ville, mais détruit le temple, a volé les richesses qui se trouvaient dans le temple splendide, construit par Salomon, et le peuple a perdu ce qui symbolisait la présence de Dieu. Et combien d'hommes et de femmes doivent faire ce constat que ils ont gâché leur vie, que leur vie a été abîmée, que leur vie a été gâchée par l'œuvre de l'ennemi progressivement, que ils ont perdu quelque chose qu'ils avaient connu, ils ont perdu peut-être l'innocence de l'enfance, ils n'ont jamais connu Dieu, les bons principes que ils avaient lorsqu'ils étaient enfants, qu'on leur a inculqués, ils ont perdu tout ça. Et le cœur est triste, n'est-ce pas? Néhémie n'était pas responsable de ce qui s'était passé. C'est parce que le peuple s'était éloigné de Dieu que Dieu avait permis la déportation, la captivité. C'est parce que Dieu voulait parler à son peuple, c'est par amour, c'est pas pour punir, en disant, voilà, vous apprendrez. C'est parce que Dieu voulait absolument que son peuple puisse revenir à lui, être mis à part pendant un temps pendant lequel il réfléchirait, pendant lequel il chercherait Dieu. Et Néhémie était de ces hommes qui avaient le cœur brisé parce qu'ils ne pouvaient pas supporter cette situation. Vous pouvez rester avec le cœur brisé toute votre vie en disant, j'ai gâché ma vie a été détruite, ma vie, ce que j'ai connu, ce qui a été investi dans ma personne, tout ce qui était bon, eh bien je l'ai perdu et maintenant je dois vivre avec. Mais Néhémie n'était pas de ces hommes-là, de ce genre de personnes-là qui se laissaient abattre. Son cœur était triste et ça, vous le voyez dès le premier chapitre, par exemple dans Néhémie chapitre 1, verset 4. Il a entendu des nouvelles, quelqu'un était allé voir à Jérusalem et était revenu, alors il a dit, alors, comment c'est la ville? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va pas? Dans quel état elle se trouve? Et quand son frère, compatriote lui a raconté l'état de la ville de Jérusalem, ça a brisé son cœur. Mais il a cherché tout de suite à voir comment il pouvait agir. Et c'est quelque chose que Dieu fait dans les vies. Lorsqu'il met une tristesse parce qu'on prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est détruit, il met aussi ce moteur, n'est-ce pas ? Dieu n'est pas pour dire, voilà, ça ne va pas, ça ne va pas. Et puis c'est tout. Il ne s'en va pas en disant, voilà, vous avez, je vous ai dit, hein, je vous ai prévenu que ça n'allait pas. Vous avez le résultat de ce que vous voulez. Il met un moteur chez ceux qui veulent s'en sortir. Et je voudrais savoir ce matin si on est prêt, si on veut, si on a quelque chose qui a été détruit. Si on dit, Seigneur, moi je veux reconstruire avec toi. Je veux me mettre au travail, je veux me lever et me mettre au travail pour reconstruire. Ça, c'est ce que Dieu veut. Peut-être on est fatigué, peut-être on est abattu. Peut-être on va voir que ça, ça fait partie de l'expérience de Néhémie. Peut-être qu'on se dit, mais je ne peux pas une telle destruction, je ne peux plus revenir en arrière, je ne peux pas construire, c'est trop de travail, c'est trop pour moi. Mais est-ce que dans le cœur, il y a ce désir de dire, Seigneur, ce matin, je veux me lever pour pouvoir construire avec toi ou pour pouvoir reconstruire ce qui a été détruit avec toi, je veux le faire aujourd'hui. Avec toi, je veux commencer. Bien sûr, si vous pensez que la muraille de Jérusalem allait être miraculeusement reconstruite comme ça, en priant, en disant, voilà, et il n'y a rien à faire parce que Dieu a construit miraculeusement la muraille. Non, il fallait se mettre à l'œuvre avec Dieu. Mais Dieu donne la force. Dieu donne le zèle, il donne le courage, n'est-ce pas? Si on dit, voilà, je veux le faire. Il n'y a pas de « c'est trop tard ». Il n'y a pas de « je suis allé trop loin ». Il faut dire, Seigneur, moi je veux me lever et je veux reconstruire avec toi. Je veux commencer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et ça, vous pouvez le faire en entrant chez vous, en disant, Seigneur, je veux que tu reconstruises ce qui a été détruit. Je veux travailler avec toi pour ça. Je veux construire, ou je veux construire. Si vous avez déjà été restauré par la grâce de Dieu, eh bien, je veux construire ton œuvre, je veux construire ton Église. Je veux travailler à ton Église. Et travailler à l'Église, ça ne veut pas dire prendre des responsabilités par-ci, par-là. Figurer sur la feuille des responsabilités n'a aucun sens. C'est travailler spirituellement, n'est-ce pas ? Quand le cœur des gens, et on est béni ici dans cette Église, parce qu'on a tout un peuple qui est déterminé à travailler. C'est une grande bénédiction. Mais continuez, continuons. Que ce soit comme ça toujours, et de dire, Seigneur, voilà, moi je veux faire progresser cette œuvre. Je veux travailler pour toi, je veux travailler afin que ton royaume soit agrandi des nouvelles personnes qui vont entendre parler de toi. En tout cas, c'était le cœur de Néhémie. Et vous voyez qu'il y avait la tristesse. Combien de gens essayent de venir au Seigneur sans passer par l'étape de tristesse, de repentance? Mais il y a quelque chose qui doit se produire un jour où on a pris à cœur notre état spirituel, l'état de dégradation, et cela a dû provoquer chez nous une tristesse qui mène à la repentance. Et cette repentance mène à la joie. C'est le processus de restauration de Dieu. C'est ce que Dieu fait, c'est ça son œuvre. Il n'y a rien dans la parole de Dieu d'autre que ça. Dieu n'est pas un Dieu qui est en train de dire « ça ne va pas et c'est tout, ça c'est bien, c'est bon, ça ne va pas, etc. » Il est celui qui amène toujours dans ce processus de construction, d'édification. C'est pour ça que le diable est appelé le destructeur, n'est-ce pas ? Parce qu'il a le rôle opposé, il a le travail opposé de celui de Dieu. Donc ça, c'est la première caractéristique de Néhémie. Il est attristé par l'état de délabrement de la ville de Jérusalem. Mais il y a d'autres caractéristiques. Il y a une autre caractéristique de Néhémie qu'on trouve au chapitre 2, verset 8. Bien sûr, il faut lire le chapitre chez vous. On ne va pas le lire ce matin, mais si vous ne le lisez pas chez vous, on va devoir lire les livres entiers, avant la prédication. Ça va prolonger le culte, n'est-ce pas ? Mais quand on lit chez soi, ça, on comprend mieux les choses, on retrouve les idées, etc. Et c'est mieux comme ça, n'est-ce pas? Ou à la fin du verset 8 du chapitre 2, le roi me donna ses lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Le roi lui a donné l'autorisation de partir. Ils étaient relativement gentils, ces rois qui ont pris Israël et Juda en captivité. Il y avait une domination sur ce peuple. Le peuple était vraiment en captivité, mais il y avait aussi une sorte d'ouverture, de compréhension. On voit ça dans Esther aussi, dans Esdras. On voit des choses qui sont assez extraordinaires, mais semble-t-il, c'était comme cela. Et ici, il a eu l'autorisation, et il a eu même des lettres du roi pour prouver que c'était vrai qu'il avait cette autorisation. Mais car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Quel témoignage, n'est-ce pas, que la bonne main de mon Dieu est sur moi. Et c'est ce que Néhémie pouvait dire. Néhémie pouvait déclarer que la main de Dieu était sur moi. Alors vous allez dire, moi j'ai pas de main qui est sur moi. On revendique la liberté, n'est-ce pas? Parce que avoir la main de quelqu'un sur soi, c'est être manipulé. Et on n'aime pas ce terme, c'est devenu très péjoratif. Mais vous savez, quand vous venez au monde, vous êtes manipulé. Vous êtes manipulé par les mains du gynécologue ou de la personne qui va vous accueillir. Elle va vous prendre dans les mains. Si vous ne voulez pas qu'on manipule votre bébé, eh bien, ça va être très difficile, n'est-ce pas, de le prendre autrement qu'avec les mains. Et donc, il est déjà manipulé. Et vous serez manipulé toute votre vie par toutes les influences qui vont contribuer à diriger votre vie. Nous sommes tellement influencés, manipulés. C'est plus avec les mains, c'est beaucoup avec la parole, n'est-ce pas? Mais il suffit qu'on répète autour de nous quelque chose plein de fois et ça commence à rentrer dans notre esprit, ça commence à influencer notre façon de croire et de penser. C'est terrible, n'est-ce pas? Donc voilà, on dit maintenant dans les écoles, on dit de manière très répandue que Dieu n'existe pas, que c'est aberrant de croire en Dieu. Alors ça devient comme quelque chose que les gens acceptent, que c'est inconcevable. Et si on remonte à un siècle, eh bien, ou à deux siècles, eh bien là, c'est inconcevable de ne pas concevoir que Dieu existe et que Dieu agit. Mais la question, c'est de savoir qui est-ce qui nous manipule. Quelle est la main qui est posée sur nous? Est-ce que c'est la main des autres personnes qui nous entourent, qui ont une influence sur nous, qui ont constamment une main posée sur nous pour nous diriger, n'est-ce pas, pour nous conduire, pour nous tourner la tête dans la direction de ce qu'on veut, de ce qu'ils veulent plutôt? Ou est-ce que c'est d'autres puissances? Mais de toute façon, il y a une main qui est posée sur vous. Il y a quelque chose qui vous manipule, de toute façon. Et ceux qui se déclarent non manipulés sont probablement les plus manipulés, parce qu'ils sont manipulés au point de ne pas voir qu'ils le sont. Donc c'est de très bons manipulateurs qui font ça. Mais ici, Néhémie disait la main, il était en captivité, il pourrait dire je suis manipulé par ceux qui m'ont pris en captivité, mais il n'était pas dans cet état d'esprit. Il savait que la main de Dieu, la bonne main de Dieu était sur moi. Et combien on a besoin de dire Seigneur, j'ai besoin que ta main soit sur moi constamment. On chante ce chant lorsque je ressens ta main bénie posée sur moi. Un chant nouveau remplit mon cœur. Je t'aime, Seigneur. Et là, Néhémie savait que la bonne main de Dieu était sur lui. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il imposait les mains aux malades. Et les malades étaient guéris. Parce que c'était la main de Dieu qui était posée sur la tête des malades, sur le corps des malades. Et ils étaient guéris. Et sa main fait une œuvre puissante. La main de Dieu posée sur nous fait une œuvre puissante. Et pourquoi ne pas demander, n'est-ce pas? Demander comme des enfants qui demandent à ce qu'on les prenne dans les bras, à ce qu'on les touche. Si vous ne touchez pas un enfant, si un enfant n'est pas touché, il meurt. En Chine, dans les orphelinats, il y avait un taux de mortalité énorme et pourtant les enfants étaient nourris. Pourtant les enfants étaient soignés. Ils étaient protégés de tout, mais ils étaient soit handicapés mentaux, soit ils attrapaient des infections, n'est-ce pas, très facilement, et ils mouraient de manière rapide, parce qu'en fait, il y en avait trop, et le personnel était insuffisant, ils ne pouvaient pas s'occuper, ils ne pouvaient pas les prendre dans les bras, les manipuler. Et c'est ce dont on a besoin d'être touché. N'est-ce pas, c'est frappant qu'on utilise ce terme en disant « Le Seigneur un jour m'a touché ». Mais si vous avez été touché par le Seigneur, il y a quelque chose qui a été transformé dans votre vie. Et c'est à ça qu'on voit que quelqu'un a été touché par Dieu. Et si vous avez été touché par Dieu, cherchez cette communion, cherchez ce contact avec Dieu. Cherchez à ce que sa main soit posée sur vous. Vous savez, les enfants, quelquefois, ils prennent la main pour qu'on les mette autour d'eux. N'est-ce pas, ils ont besoin de ça. Eh bien, qu'on cherche ça. Et Néhémie, c'était un homme qui pouvait dire « La bonne main de Dieu était sur moi ». Pas seulement à certains moments, il le savait que Dieu était toujours avec lui, à le guider, à mettre sa main. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas peur, c'est pour ça qu'il pouvait prendre la décision de ce projet fou. Et vous allez voir qu'il fallait une force extraordinaire que seul un homme faible pouvait prendre, pourvu qu'il ait la main de Dieu posée sur lui. Parce que la main de Dieu posée sur nous nous fait prendre conscience qu'on est faible. Mais donne le sentiment qu'avec Dieu, on pourra faire l'œuvre qu'il veut qu'on fasse. Et une autre, donc troisième caractéristique de Néhémie, c'est qu'il se décide à rebâtir. C'est parce qu'il savait que la main de Dieu était sur lui, parce qu'il était attristé, il se lève et il dit « Je vais rebâtir maintenant, je vais partir, je vais aller rebâtir cette ville. » Ce projet est insensé, on va lui rappeler ça. Les ennemis vont lui rappeler ça et vous allez voir que dans votre vie, immédiatement, lorsque vous décidez de réparer une situation, lorsque vous décidez de reconstruire avec Dieu quelque chose, il y a tout de suite et tout le temps, quelque chose ou quelqu'un qui va vous dire « c'est pas la peine ». Tu vois pas ce qu'il y a à faire. Quand quelqu'un est dans l'alcoolisme, depuis des années, il a essayé X fois de s'en sortir. Et quand il dit « Maintenant, je vais le faire avec Dieu, vraiment, je vais demander. » Eh bien, il y aura quelqu'un qui dit « Oh, tu as essayé plein de fois avant. Tu n'as jamais réussi. » On a besoin de l'Esprit de Dieu, on a besoin de la main de Dieu, n'est-ce pas, posée, pour pouvoir dire « Maintenant, c'est différent. Maintenant, je vais me lever. » Et Dieu donne la force à dire « Je vais aller rebâtir ». Il se décide à rebâtir et il a la foi que Dieu va agir. Il savait que Dieu va agir. Et vous verrez que dans sa vie, dans toute l'histoire de Néhémie, c'est un homme qui tient bon. C'est un homme qui dit, quand on essaie de le faire peur, une fois il dit quoi ? Moi ? Fuir ? J'aime bien ça. Ce n'est pas un homme arrogant. C'est pas quelqu'un qui disait « Non, moi, c'est pas mon style. » Mais c'est que on lui disait des choses qui faisaient vraiment peur pour qu'il fuie, pour qu'il se décourage. Il dit « Quoi, moi, avoir peur de ça ? » J'ai pas peur. Quand on sait que Dieu veut nous reconstruire, lorsqu'il va faire le travail, eh bien, on n'a pas peur et on a la foi que Dieu va agir. Et garder cette foi, chercher à ce que Dieu la renouvelle toujours. C'est la première partie de ce livre de Néhémie. C'est Néhémie lui-même, évidemment. La deuxième entité, c'est le peuple. Le peuple qui va travailler avec Néhémie. Et on trouve que c'est formidable. C'est formidable parce que c'est vieux comme histoire. Mais on trouve que c'est exactement pareil maintenant. Le peuple est formidable. Et les émotions qui sont décrites, ce que ressent, c'est exactement ce que pourrait ressentir une église. C'est exactement ce que pourrait ressentir un peuple qui est isolé sur le plan de la société, sur le plan du pays dans lequel il se trouve, avec un désir, un objectif qui n'est pas commun et pour lesquels ils sont minoritaires. On trouve le même genre de réaction que le peuple avait. Vous allez lire ce livre et vous allez trouver que le peuple prend à cœur le travail. Ils ont dit « Oui, nous allons bâtir avec toi. Oui, nous allons travailler. On va prendre les choses à cœur. » Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas, quand il y a plusieurs, parce que ça encourage. Néhémie ne pouvait pas faire le travail seul. Une église ne peut pas se construire s'il y a une personne qui reste, une personne ou deux qui disent, bon, on va faire le travail. Et c'est merveilleux de voir, et c'est très encourageant, de voir qu'ici, il y a plusieurs personnes qui disent, allez, moi, je vais prendre ça sous ma charge. Il y a des choses qui les choses tournent. Et c'est une grâce de Dieu de voir que les choses tournent, n'est-ce pas ? On n'a pas besoin de dire, ah oui, est-ce que tu pourrais faire ça ? Est-ce que tu pourrais faire ça ? D'accord, ça marche. Pourquoi ? Parce qu'un corps, ça fonctionne comme ça. Les cellules fonctionnent sans réfléchir. Elles n'ont même pas de cerveau. Comme ça, elles sont tranquilles. Ça, c'est le problème, parce que c'est le problème, c'est que nous, on a un cerveau. C'est utile, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est un problème aussi, parce qu'on est en train de réfléchir, est-ce que je dois faire ceci, est-ce que je ne dois pas faire cela. Les cellules, elles fonctionnent. Elles font leur travail. Et parce qu'elles font le travail, le corps fonctionne bien. Si elles se mettent à ne pas bien travailler, c'est là où on trouve que ça ne va pas. Tout le corps souffre. Mais ici, le peuple qui était avec Néhémie prend à cœur ce travail. C'est la première chose. Mais vous lirez au chapitre 4 que le peuple se décourage aussi. Et ça, ça fait partie de la réalité. C'est-à-dire que la vie chrétienne, c'est pas juste, c'est pas un moment, c'est pas tout le long. Ah, j'ai le moral, j'ai la pêche, je me sens fort. Il y a des gens qui ont un tempérament comme ça. Mais le Seigneur a besoin de libérer des tempéraments comme ça aussi. Vous savez que quand vous passez par la repentance, même les bonnes choses, on doit se repentir même des bonnes choses, même des bonnes habitudes, on doit s'en repentir pour que ce soit des habitudes nouvelles, quelque chose de nouveau que Dieu donne. Quelquefois, on voit des jeunes et on dit, oula, ils ont une forte personnalité, ils feraient des bons missionnaires. Oh, quelle horreur! S'ils ont une forte personnalité, ils ont besoin que leur personnalité soit crucifiée. Dieu ne fera jamais de bons missionnaires avec des gens qui ont des fortes personnalités. C'est peut-être arrivé. On peut trouver des exemples. Mais Dieu a besoin que la personnalité soit clouée à la croix avant de pouvoir être utilisée. Des gens qui ont une grande connaissance parce qu'ils ont eu le privilège d'être enseignés dès leur enfance et ils ont une grande connaissance. On dit, ah voilà, ils vont pouvoir utiliser toute cette connaissance. Certes, peut-être. Mais ils doivent se repentir et ils doivent donner toute cette connaissance à la croix, déposer toute cette connaissance à la croix. Parce que cette connaissance a souvent aveuglé beaucoup de chrétiens parce qu'ils en sont cru justes ou parce qu'ils ont compris en tant qu'enfants les choses d'une certaine manière en tant qu'enfants et ils ont gardé ce modèle toute leur vie et ça leur a empêché de voir que Dieu voulait leur parler d'une manière nouvelle et d'une manière personnelle. Ils ont besoin de tout déposer à la croix. Vous ne pouvez pas revendiquer des choses que vous avez acquises avant votre expérience. Il est dit que toutes choses, que Dieu, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si on dit ça pour les mauvaises choses, on doit dire ça pour les bonnes aussi. Dieu a besoin de régénérer, de faire quelque chose de nouveau. Parce qu'il veut nous utiliser à sa manière. Donc, si vous êtes bon musicien, peut-être que Dieu ne va pas vous utiliser dans la musique. Peut-être qu'il va le faire. Peut-être qu'il ne va pas le faire. Vous devez tout mettre ça, n'est-ce pas, à la croix. Et c'est lui qui décide, et c'est lui qui régénère, et c'est lui qui construit. Mais dans toutes ces étapes de la vie chrétienne, eh bien, il y a le découragement qui arrive à certains moments. Bien sûr, il y a des gens qui ont un certain moment qui dure toute la vie. Et ça, c'est pas normal. Il y a des gens qui disent « je suis découragé, mais à certains moments, je suis encouragé ». C'est pas ça la vie non plus. Avec Dieu, c'est pas ça. Le peuple est passé par des moments de découragement quand ils ont vu le travail. Vous lisez ça au chapitre 4. C'est pas quand ils l'ont vu, c'est après un certain temps. Ils ont commencé à travailler, ils ont d'ailleurs fait beaucoup de travail. Et ensuite, vous lisez ça par exemple 4, verset 10. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Il arrive des fois où on dit, Seigneur, je ne peux plus. Mais le peuple n'était pas un peuple qui se décourageait. Et ça, j'insiste là-dessus, parce que quelquefois, on prend ces paroles-là et on dit, ah, voilà le modèle. Si eux se décourageaient, ben voilà, c'est normal que je me décourage. Si vous dites que c'est normal de se décourager, alors on va se décourager puisqu'on va fonctionner en cherchant la normalité. Mais ici, c'était un épisode. C'est qu'ils sont arrivés à perdre leur force. Et ça, ça arrive. Et si ce matin, vous avez perdu vos forces, eh bien, ce sont des choses qui arrivent. Mais nous avons un Dieu qui est fort. Nous avons du travail, c'est sûr. Il y a des reconstructions qui sont pénibles et longues. Mais si Dieu vous a mis à cœur de reconstruire la muraille, alors persévérez. Dieu vous donnera la force et il renouvellera vos forces. Et on voit que le peuple n'est pas resté. Si le peuple était resté comme ça, ils auraient commencé à se plaindre. Ils auraient commencé à dire « ça ne va pas, de toute façon on ne peut pas, de toute façon ce n'est pas possible ». Et puis voilà, c'est réglé. La confession de foi a été faite, ce n'est pas possible. Et vous savez que c'est une confession de foi ? C'est la foi que Dieu ne peut pas agir. C'est la foi que Dieu n'est pas puissant, n'est pas tout puissant. Donc c'est une foi qui est confessée. Quand vous dites « ce n'est pas possible », vous êtes en train de confesser la foi qui est en vous. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention à ce qui sort de notre bouche. Parce que le peuple s'est découragé, mais n'a pas professé, n'a pas déclaré de manière négative. Ils ont dit, on ne peut pas, certes, mais ils sont revenus sur leur décision. On va le voir, on le voit après qu'ils ont continué le travail. Et en plus, ils ont fait quelque chose de dur après, on va le voir. Parce que regardez, quand le peuple se décourage, je l'ai dit, c'est Néhémie 4, verset 10. Tout de suite après, et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Tout de suite, l'ennemi essaie d'exploiter cette faille. Le découragement, c'est une faille. Et il faut que cette faille soit colmatée. Les failles, quand vous construisez, quand il y a un défaut, n'est-ce pas ? De construction, je ne suis pas spécialiste, mais quand il y a des fautes de construction, on va essayer de les remédier immédiatement, n'est-ce pas ? On ne va pas dire, oh, dommage, il y a une fente dans le mur, mais dommage, ça aurait été mieux s'il n'y en avait pas. On va essayer de rectifier, n'est-ce pas ? Et quand on est découragé, on va essayer de corriger ça, on va essayer de se lever et d'avancer avec le Seigneur. Et voilà, le peuple n'est pas resté dans cet état-là. Et c'est merveilleux. Et alors, qu'est-ce qui va leur arriver ? Est-ce que Dieu va dire, alors, ouh, je vois que le peuple est fatigué. Quelquefois, il fait ça, mais là, ce n'était pas le cas. Donc, je vais leur donner du renfort. Je vais agrandir leur nombre. Je vais leur donner une force supérieure. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, l'ennemi menace d'attaquer. Donc maintenant, au lieu de travailler avec leurs deux mains, ils vont travailler avec une seule main. Parce qu'avec l'autre main, ils vont tenir l'épée. Au lieu de pouvoir dormir la nuit, il y en a qui vont devoir veiller la nuit, pendant que les autres dorment, et vice-versa, je suppose. Donc voilà la difficulté qui était. Mais ils vont le faire. Ils vont prendre les armes pour se protéger. Ils vont avoir l'épée à la main. Et j'aimerais savoir si c'est ça que vous faites quand vous êtes découragé. C'est si vous allez prendre votre épée, pas littéralement, mais si vous allez prendre la parole de Dieu, n'est-ce pas ? C'est ça qui est l'épée, n'est-ce pas ? Dans les armes, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, n'est-ce pas ? Les armes que Dieu nous donne. Et ils ont pris l'épée. Et quand vous avez la parole de Dieu, vous ne pouvez pas rester découragé. En lisant la parole de Dieu, en méditant, il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, qui vient nous nourrir, qui vient nous fortifier. C'est une expérience personnelle et je sais que bien d'autres le vivent quand on est abattu, quand on est découragé. Le fait de pouvoir prendre du temps dans la parole de Dieu, ça fortifie. Et le peuple était fortifié par cela. Une autre caractéristique de ce peuple, c'est qu'ils avaient donc l'épée à la main et puis tout ce qu'il fallait pour construire le mur avec l'autre main. Mais aussi, Néhémie leur a dit, vous êtes dispersés sur la muraille. On va donner une instruction. Lorsque il y a un danger, quelqu'un va sonner la trompette. Et quand vous entendez la trompette, vous vous rassemblez. Il y a un verset de la Bible qui dit « Heureux le peuple qui entend le son de la trompette ». Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que lorsque vous entendez le son de la trompette qui vous dit « Il y a un danger », eh bien, au lieu de rester isolé, au lieu de rester à votre position en disant « Non, 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 de toute façon, ça va ». J'ai une épée, etc. et vient que vous rassembler. Et le son de la trompette sonne très souvent. C'est pour ça qu'il est important de se rassembler. La première discipline qu'on doit avoir, c'est de pouvoir chercher à se rassembler. Parce que la trompette sonne beaucoup. Et quand vous entendez qu'il y a un danger, n'est-ce pas, il y a quelque chose dans votre cœur qui vous dit qu'une situation risque d'être dangereuse, que l'ennemi est en train de menacer d'attaquer, eh bien vous cherchez les autres, les frères et sœurs, et vous cherchez la parole de Dieu, et vous priez, vous demandez à d'autres de prier pour vous, en disant « je me sens en danger ». Et c'est un fonctionnement normal dans le corps de Christ. C'est un fonctionnement normal. Je sais que ça ne se fait pas dans beaucoup d'églises, mais de demander qu'on prie les uns pour les autres, en disant « voilà, je sens tel danger qui arrive ». Il n'y a pas de jugement à avoir. C'est justement que la personne a entendu le son de la trompette. Elle a entendu qu'il y avait un danger. Et elle, c'est normal de chercher ça. Autre caractéristique du peuple ici, c'est qu'ils se sont disputés. Oh, vous allez dire, c'est quand même pas normal. Ils avaient la foi en Dieu, ils se disputaient. Ne me dites pas que dans votre cœur, il n'y a pas quelque chose, n'est-ce pas? C'est une chose qu'on n'a pas besoin d'apprendre aux enfants. Jamais on doit apprendre, bon voilà, on va faire un cours, maintenant voilà comment on se dispute. Alors vous, comment... Non, il n'y a rien à faire, ils apprennent tout seuls. Ça marche tout seul, tout seul, tout seul. Par contre, il faut leur enseigner pendant quelques années, c'est-à-dire environ 90 ans, comment ne pas se disputer, comment être victorieux sur la dispute, parce que c'est quelque chose qui est si facile. Pourquoi ? Parce que nous avons toujours cette idée que nous devons protéger notre survie. N'est-ce pas ? On doit se protéger et faire tout pour que l'on survive. Pour que, voilà, donc si notre moi est atteint, si on est un peu atteint, eh bien, on va réagir parce qu'il ne faut pas qu'il soit atteint, n'est-ce pas? Il faut que mes droits soient reconnus, si on se dispute. Jamais ça doit arriver. Et si ça arrive, l'attitude doit être celle du peuple qui était là. Ils se sont disputés, vous lisez ça au chapitre 5, c'est la caractéristique du chapitre 5. Il y avait des choses qui n'allaient pas dans des prêts qui avaient été faits avec intérêt, alors qu'entre eux, juifs, ils ne devaient jamais se prêter avec intérêt, etc. Donc voilà, il y avait souvent l'argent, c'est un problème, n'est-ce pas? L'argent, c'est un problème, vraiment. Les gens aiment bien l'argent, mais c'est souvent l'objet ou le sujet de dispute. Et voilà qu'il y avait des problèmes entre eux. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Je trouve vraiment ce peuple merveilleux. Parce que Néhémie a réglé ça. Il a dit, ça ne va pas, ça. Donc il a dit, on va régler ça. Et le peuple a tout de suite s'est soumis et a commencé à régler. Ils ont commencé à régler les problèmes. Ils ont commencé à demander pardon. Et ils ont commencé à dire, on va changer, on va pas prêter avec intérêt, etc. Et quelque chose de frappant aussi, qui m'a beaucoup frappé, c'est au verset 10 du chapitre 5. Ceux qui étaient les prêteurs, ils ont dit « abandonnons ceux qui nous doivent ». Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Ah, vous allez dire « le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte ». Mais ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Ce peuple était touché par l'Esprit de Dieu. Parce que c'était l'Esprit de la Pentecôte qui était là en train de renouveler. Et l'Esprit de Dieu fait depuis le jour de la première Pentecôte, c'est cette œuvre de restaurer, de reconstruire. C'est le même travail qui était fait physiquement là, qui est fait dans les vies des hommes et des femmes. Et les hommes et les femmes, ils ont dit « abandonnons ce qu'on nous doit ». Et si tu retiens quelque chose que quelqu'un te doit, eh bien tu n'as pas pardonné dans ton cœur. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut pas te pardonner. Parce que c'est ça, retenir. C'est de dire « oui, mais ce mal qu'on m'a fait, je ne peux quand même pas l'oublier ». Et on va avoir un raisonnement, n'est-ce pas, rigoureux, etc., pour prouver que c'est quelque chose que... On nous doit quelque chose en compensation. On nous doit des excuses au moins. On doit reconnaître que c'est affreux à vivre. Mais le Saint-Esprit, quand il vient dans une vie, la personne abandonne ça. Il abandonne la revendication de ses droits. Il abandonne même le fait de réclamer le pardon et les excuses. Et si on a quelque chose qui est retenu contre quelqu'un, c'est ça pardonner, n'est-ce pas? Il y a le verbe donner dedans. Pardonner, ça veut dire je ne retiens pas ce qu'on m'a fait. Si on ne pardonne pas, eh bien il ne peut pas y avoir de reconstruction de la muraille. Et le peuple ici a pardonné. Le peuple s'est repenti d'avoir fait des histoires sur telle et telle chose. Et c'est ça qui est béni, n'est-ce pas? C'est ça qui fait que le travail peut se faire, que la reconstruction se fait. Et Dieu bénit ceux qui pardonnent, parce qu'il les pardonne d'emblée. Et c'est la condition. Vous ne pouvez pas être pardonné par Dieu si vous n'avez pas pardonné vous-même à ceux qui vous ont offensé, à ceux qui vous ont fait du mal. C'est une règle très claire dans le processus, dans l'œuvre de Dieu, dans les vies. Et là, le peuple, ils ont réglé ce problème. C'était réglé. C'est extraordinaire quand ça marche comme ça. Qu'il y ait des disputes parfois qui se lèvent dans le cœur. Mais oui, bien sûr, dans Éphésiens, il est dit, si vous vous mettez en colère, ne laissez pas le soleil se coucher. C'est-à-dire, il savait très bien que si, que ça peut arriver. L'apôtre Jean dit, si nous avons péché, nous avons un avocat. Mais il ne parle pas de quelque chose de normal, d'un processus normal et logique. Il parle de quelque chose qui peut arriver. S'il y a quelque chose de l'ordre de la dispute dans le cœur où on dit, là j'ai été lésé. Là on n'a pas reconnu ma personne. Comment pouvez-vous dire que vous êtes mort avec Christ si vous revendiquez qu'on reconnaisse votre personne? Si on revendique quelque chose pour nous, si on revendique des droits, c'est qu'on n'a pas connu la crucifixion, et je parle à moi en premier. C'est qu'on n'a pas connu la crucifixion. On ne peut pas dire « je suis mort avec Christ ». Et vous savez que la résurrection avec Christ n'est possible que s'il y a eu mort. Comment voulez-vous ressusciter si vous n'êtes pas mort? On peut tous dire, rendre témoignage ici en disant « je suis ressuscité ». Et quand est-ce que tu es mort? Ben non, je ne suis pas encore mort. Mais les gens disent « voilà, j'ai la vie nouvelle, je suis né de nouveau ». Mais avant de naître de nouveau, il faut mourir. Et le signe que quelqu'un est mort, c'est que quand on le touche dans ses droits, quand on touche dans sa personne, les choses sensibles de sa personne, il n'y a plus de réaction. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Mais c'est ça qu'il faut. Et si on met la barre en disant « le modèle, c'est le système qu'on voit dans les églises d'habitude », eh bien, on a vite atteint le modèle. Mais si vous voyez que c'est ça l'exigence de Christ, que c'est ça la vie chrétienne, c'est de dire, c'est pas la mortification, c'est pas de dire je suis rien, les gens qui disent je suis rien, tout le temps, de toute façon je sais que je suis rien, c'est des gens qui se croient quelqu'un, parce qu'un mort ne dit pas je suis rien, il trouve que c'est normal qu'on le touche, qu'on lui fait du mal, qu'on le maltraite, ça ne touche pas. Et c'est ça qui est arrivé, Jésus n'était pas touché par le manque de droit. Il pouvait tenir un raisonnement extraordinaire pour prouver la logique. Je suis Dieu, je pourrais envoyer une armée d'anges pour vous faire la démonstration, pour vous foudroyer, vous démontrer que je suis Dieu. Mais il aimait ceux qui leur faisaient, ceux qui lui faisaient du mal. C'est ça la nature. Et l'Évangile dit que c'est ça la vie que Dieu veut mettre en nous. Et on doit commencer par reconnaître que c'est ça que Dieu veut. Et quand on commence à reconnaître que c'est ça que Dieu veut, on commence à désirer cela. Et quand on commence à désirer, on commence à le vivre progressivement. Donc le peuple l'a connu. Et une caractéristique, j'aurai pas le temps et c'est très bien, j'aurai pas le temps de parler des ennemis. C'est très bien, on reste sur Néhémie et le peuple. Mais lisez la fin de Néhémie et voyez que le peuple, à cause de cet état d'esprit, cette attitude qui était bonne, cet état de Pentecôte, de régénération, de vie qui renaît, n'est-ce pas, de cette reconstruction de la muraille, eh bien le peuple a écouté la parole. Ils ont demandé à Esdras de lire pendant des heures la parole. Et le peuple était là à écouter la parole. Quand Jésus parlait, les gens étaient là à l'écouter. Ils étaient là à dire, je veux entendre. Je veux entendre la parole de Dieu. Nous avons le privilège d'avoir la parole de Dieu, mais le peuple voulait l'entendre. Est-ce que vous voulez la lire? Est-ce que chez vous, vous désirez que Dieu vous parle? Et le peuple a non seulement entendu la parole, mais ils se sont repentis, ils ont agi en conséquence, ils ont pleuré. Au point même que Néhémie a dû dire, ne pleurez pas, c'est un jour de fête. Il n'a pas dit, oui, pleurez, vous avez de quoi. Il a dit, ne pleurez pas, réjouissez-vous, allez manger, on va faire la fête. Parce que c'est la vie nouvelle, c'est la Pentecôte. C'est quelque chose qui se reconstruit, c'est l'œuvre de Dieu qui se reconstruit. Mais il a fallu passer par les pleurs pour qu'on dise ne pleure pas. On ne peut pas dire ne pleure pas à quelqu'un qui ne pleure pas. Il faut passer par les pleurs. Et la parole de Dieu doit nous faire pleurer, n'est-ce pas? Elle doit nous parler dans les profondeurs de notre cœur. Est-ce que nous voulons être comme Néhémie? Est-ce que nous voulons être comme le peuple ce matin? Et l'attitude de cette église est beaucoup comme l'attitude de Néhémie et du peuple. Et que l'on continue comme cela, c'est pas à désirer davantage, pour qu'on puisse construire des murailles et pour qu'on puisse construire le temple de Dieu, l'œuvre de Dieu dans cette vie. Amen.